Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. On est en direct à la radio et en image sur YouTube. Vous tapez RFI en direct et vous nous suivez. Et on est ravis d'être avec vous comme tous les matins. Dans 10 minutes, dans un instant, on répondra d'ailleurs à toutes vos questions sur l'actualité. Dans 30 minutes, nous lancerons un débat et nous parlerons du Tchad puisque la transition est officiellement terminée après le référendum constitutionnel, la présidentielle et les législatives de décembre dernier. Il ne manquait plus qu'à installer la nouvelle Assemblée nationale et c'est chose faite. Mardi, les députés ont pris place dans l'hémicycle. L'occasion donc ce matin de dresser le bilan de ces quatre dernières années. Êtes-vous fier, vous qui êtes au Tchad, du chemin que vous avez parcouru? Diriez-vous que cette période a permis de consolider la démocratie, de renforcer la cohésion nationale? Et dites-nous désormais quelles sont vos attentes, vos priorités? Un seul numéro pour nous contacter, 33 9 693 693 70, et vos commentaires comme tous les matins sur nos réseaux sociaux. Comme promis donc, vos questions à la rédaction et on va commencer justement avec des questions sur le Tchad. Bonjour Jonathan.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de la paix sur l'actualité.
À Yaoundé, des questions donc sur le Tchad après le départ vendredi dernier des militaires français.
Oui, j'ai entendu que des drones turcs se sont installés sur l'une des anciennes bases françaises au Tchad. Quel intérêt trouve la Turquie en équipant l'armée tchadienne? La Turquie pourrait-elle aller jusqu'au déployer des troupes au Tchad pour remplacer la présence française?
Ah, et des drones turcs installés effectivement sur l'ancienne base militaire de Fayal Arjo. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Juan.
Journaliste à RFI, spécialiste des questions de défense. À peine la coopération militaire française terminée que la Turquie renforce sa présence au Tchad. Quel est donc l'intérêt d'Ankara?
C'est un intérêt commercial, tout simplement. C'est du business, Juan. La Turquie, c'est une immense puissance industrielle, elle cherche des débouchés à ses entreprises et à ce jeu-là, Ankara, on peut le voir, n'est pas maladroit. La force d'Ankara, c'est de proposer des offres tout compris, all inclusive, comme on dit.
Des paquets.
Voilà, alors des matériels militaires signés par exemple Bayraktar pour les drones ou encore Autocar pour les blindés. Autocar, comme le disent les représentants, j'en ai rencontré d'ailleurs au salon Rossatori. Et ils m'ont dit, Autocar, c'est moins cher que les Français et mieux que les Chinois.
Ah, d'accord.
Voilà, ils fournissent par exemple...
Donc ça, c'est un argument de vente.
Bien sûr.
Et ça fonctionne.
Ils fournissent des véhicules pour les forces de l'ONU un peu partout en Afrique. Donc ils vendent beaucoup de matériel. Et la Turquie ne s'arrête pas là. Elle propose aussi des formations militaires avec sa société militaire privée, SADAT, S-A-D-A-T, des financements, mais aussi des débouchés aériens. Par exemple, Juan, ces dernières années, Turkish Airlines a ouvert des dizaines de destinations vers l'Afrique, ça c'est porteur. La Turquie a bien compris que le continent africain est en passe de devenir le plus peuplé de la planète, un terrain économique prometteur, et Ankara ne veut pas louper le coche. Les Turcs s'implantent partout avec beaucoup d'efficacité. C'est peut-être ce qui a manqué finalement aux Français qui ont fait à la place d'eux. Et par exemple, le délégué général de l'armement en France qui s'occupe des programmes militaires, des matériels, ne s'était jamais rendu en Afrique. Il y est allé récemment, il est allé en Mauritanie, c'est une première. Voilà, nous, on vend des matériels très chers, des rafales, des missiles, etc. Et on a un peu négligé ces armées africaines.
Donc la Turquie s'impose de plus en plus comme un partenaire privilégié des armées africaines. Je trouve pertinente la question de Jonathan qui s'interroge à quand des troupes turc sur le sol tchadien. Est-ce que c'est prévu?
Mais non, justement, la Turquie fait attention à ne pas déployer d'hommes au sol pour justement ne pas aller à l'encontre de ce vent de souveraineté qui souffle sur l'Afrique. Ça serait une mauvaise interprétation. Ils ne veulent pas s'engager sur cette voie.
Donc les Turcs qui sont présents, par exemple, en ce moment sur la base...
Ce sont des techniciens.
Des techniciens.
Voilà, ils participent à la mise en œuvre des appareils achetés par le Tchad. Mmh. Ils forment les militaires tchadiens, mais ce n'est absolument pas des soldats déployés en Afrique. Pas du tout. C'est pas dans la logique, c'est pas une présence militaire. Ils le font à chaque fois. Bayraktar, par exemple, a déployé des techniciens...
Pour les drones. Hein.
Pour les drones, dans tous les pays qui l'ont acheté. Ils sont nombreux, il y en a au moins une dizaine en Afrique. Et c'est vraiment ce qui fait une offre séduisante. Ça ne heurte pas les pays africains. Voilà, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de base, il n'y a pas de soldats. C'est du soft power et ça marche très bien, et ça marche très bien au Tchad. Et c'est intéressant le Tchad, hein. Ankara, encore une fois, l'a bien compris. Hein. Qui est au Tchad peut rayonner dans l'ensemble de l'Afrique. C'est important, ils y sont, ils font du business et ça marche.
L'analyse de Franck Alexandre, spécialiste des questions défense à RFI. Jonathan, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, très bien, Juan.
Eh bien, bonne journée à Yaoundé.
Merci.
Et vos explications, Franck, sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Bonne journée à tous les deux. 9h16 à Paris, 8h16 en temps universel. Des questions maintenant après... les déclarations fracassantes de Donald Trump sur la bande de Gaza. Bonjour, si je retrouve ma petite fiche, Ernest, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Merci, et merci de nous écouter à Lubumbashi, en République démocratique du Congo.
Bien sûr.
Votre question.
Oui. D'accord, l'Égypte et la Jordanie s'opposent au projet de Donald Trump de déplacer des forces des Gazaouis sur leur territoire. Alors, comment a réagi le président américain face à cette fin de non-recevoir?
Oui. Transférer une partie des Gazaouis en Égypte et en Jordanie pour prendre le contrôle de la bande de Gaza et transformer ce territoire en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Voilà ce qu'a déclaré le président américain. Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient. La proposition de Donald Trump provoque un tollé international, à commencer, comme le rappelait à l'instant Ernest, par les deux pays concernés, l'Égypte et la Jordanie, sont catégoriques. Elles rejettent le plan de Donald Trump.
Bah oui, évidemment, ni l'Égypte ni la Jordanie ne sont pas en mesure et ne seront jamais en mesure d'accueillir les Palestiniens, ni de Gaza, ni de Cisjordanie, parce que tout simplement, ces deux pays, certes, sont alliés stratégiques des États-Unis d'Amérique, mais ne peuvent pas se permettre à accepter une telle proposition, parce que tout simplement, ne serait-ce que pour la survie de leur régime, si jamais ils acceptent une telle proposition, le lendemain, c'est vraiment la survie de leur régime qui sera mise en cause.
Et en même temps, Adel Bakawan, l'Égypte dépend en grande partie de l'aide militaire américaine. Elle est estimée tout de même à plus $1 milliard. L'Égypte pourra résister longtemps ?
Oui, l'Égypte pourra résister longtemps parce que les États-Unis d'Amérique, oui, aident l'Égypte, mais l'Égypte aussi est un pays stratégique pour les États-Unis d'Amérique à l'échelle géopolitique, à l'échelle sécuritaire, à l'échelle de la gestion des rapports de force au Moyen-Orient. Donc, il y a une réciprocité d'intérêt entre les deux pays.
Oui. En tout cas, on a entendu le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, tout comme le roi Abdallah II de Jordanie. Il rejette donc le plan de Donald Trump. Ce n'est pas une surprise. Plan rejeté également par les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Tous les États arabes s'opposent au moindre déplacement forcé des Gazaouis.
Pas seulement les pays arabes, mais aussi les pays de la communauté internationale. Il n'y a pas un seul pays au monde, un seul pays, et même Israël, hein, Israël Benjamin Netanyahu, si vous avez suivi sa réaction, certes, il n'a pas été désenchanté, mais il ne l'a pas soutenu, il ne l'a pas soutenu directement.
Oui, après il a dit que c'était une bonne idée tout de même.
Voilà, il a dit que c'est une bonne idée, mais il ne l'a pas encore adopté publiquement. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche tellement sensible, tellement compliqué. Tout simplement, c'est un crime contre l'humanité.
Ouais. Notre auditeur Ernest, qui vous écoute bien évidemment, Adel Bakawan, disait comment réagit Donald Trump à cette fin de non-recevoir. Je vais vous laisser répondre à un instant, mais j'ai un verbatim sous les yeux des propos qu'il a tenus en public, en parlant de l'Égypte et de la Jordanie. Il a dit « Ces deux pays finiront par accueillir les Palestiniens. Nous faisons beaucoup pour eux, ils vont le faire. »
La semaine prochaine, il reçoit le roi de la Jordanie à la Maison Blanche. Il est toujours avec son paradigme de businessman. Il pense qu'avec son paradigme, je donne, tu me donnes, en se donnant, on pourra régler tous les problèmes du monde. Sauf la réalité est beaucoup plus complexe que la logique d'un businessman.
Ouais. On va donner la parole à un autre auditeur dans un instant. Ernest, a-t-on répondu à votre question ?
Merci.
Merci.
Oui, certainement. Merci, ça
et
fait.
Et merci de votre confiance. Bonjour, Babacar.
Bonjour, M. Koumen.
À Saint-Louis, au Sénégal, nous vous écoutons toujours sur les déclarations de Donald Trump concernant la bande de Gaza.
Effectivement, moi aussi, ma question va dans le même sillage. Lors de la conférence de presse de Trump, il a déclaré vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza. Ma question, c'est de savoir, a-t-il réellement le pouvoir de le faire ?
Adel Bakawan.
Ah, excusez-moi, j'ai pas très bien entendu.
Donald Trump a-t-il vraiment le pouvoir de prendre le contrôle de la bande de Gaza ?
Donald Trump a tous les pouvoirs, oui, bien évidemment, a le pouvoir. Mais est-ce que les conditions objectives de la bande de Gaza permettent une telle occupation ? Pourquoi pas ? Les Américains ont occupé en 2003 un pays beaucoup plus grand que la bande de Gaza, à savoir l'Irak de Saddam Hussein. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? L'Irak de Saddam Hussein est devenu un enfer absolu pour les Américains. Et quelques années plus tard, ils se sont retirés de ce pays. Ils peuvent le faire ? Est-ce qu'ils peuvent rester ? Ça, cela n'est absolument pas sûr.
Ouais, Donald Trump a dit qu'il n'excluait pas d'employer la force militaire pour prendre le contrôle de Gaza. Des propos, modérés quelques heures plus tard par la Maison Blanche, qui affirme que le président n'a jamais eu l'intention d'envoyer des hommes au sol.
Voilà, c'est ça, absolument. Ils ont envoyé des hommes au sol en Afghanistan, c'était l'échec total. Ils l'ont envoyé en Irak, c'est l'échec total. Il est peu probable, avec la logique de Donald Trump qui se désengage des terrains militaires, de réengager l'armée américaine dans un endroit, l'endroit le plus dangereux au monde, à Gaza.
D'autant que face à lui, il y a une opposition internationale. Il finira donc par reculer sur ce projet ?
Je suis relativement persuadé qu'à un moment donné, il sera dans l'obligation d'abandonner ce projet.
Ouais. Babacar, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, très bien, monsieur Gomez.
Eh bien, surtout, merci à Adel Bakawan, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient. Merci infiniment d'avoir pris quelques instants ce matin pour répondre aux auditeurs de RFI. Vos questions au téléphone, bien évidemment, comme tous les matins, il y a le standard 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos questions à tout moment, en pleine journée, en pleine nuit, sur nos réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, bien évidemment, sans oublier pour Facebook de nous envoyer en message privé votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous recontacter. Bonjour Pascal.
Bonjour Juan.
Comment allez-vous Pascal ?
Ça va et vous ?
Ça va mieux. Ah, j'entendais une petite voix comme si vous étiez un peu fébrile. C'est pour ça que je vous demandais comment vous alliez. Vous êtes au Cameroun, Pascal, et vous avez des questions toujours un peu sur Donald Trump et la politique étrangère américaine.
Bien évidemment.
On vous écoute.
En Somalie, les frappes américaines ont tué les responsables du groupe État islamique. Alors, la première question, Juan. Comment les États-Unis justifient cette opération ?
L'opération menée effectivement il y a quelques jours en Somalie. Bonjour Manon Lefebvre.
Bonjour.
Maîtresse de conférence en civilisation des États-Unis à l'Université Polytechnique des Hauts-de-Seine. Ces frappes aériennes, selon Donald Trump et le gouvernement somalien, ont ciblé des figures clés de la branche somalienne du groupe État islamique, dont un planificateur d'attaques djihadistes. Comment le Pentagone justifie-t-il cette opération ?
Oui, alors il faut savoir que effectivement, techniquement, selon la Constitution des États-Unis, ces frappes ne sont pas censées pouvoir être autorisées, puisque normalement, ce n'est pas au président de mener ce type d'opération militaire, ça doit être voté par le Congrès. Mais depuis les attentats du 11 septembre 2001, il y a une partie du budget de l'État qui est constamment réservée à la discrétion du président pour des opérations considérées comme étant des opérations d'urgence, et donc notamment de lutte contre le terrorisme, mais ça peut aussi être pour des catastrophes naturelles, par exemple. Mmh.
L'intervention, ces frappes, visiblement par drone, sont saluées par les autorités somaliennes. Hein. Le président somalien en personne a fait part de sa, je le cite, « profonde gratitude envers les États-Unis ».
Oui, mais en fait, justement, depuis Obama, c'est vrai que c'est devenu régulier que ces fonds soient utilisés pour des interventions à l'étranger, et en l'occurrence avec la Somalie, il y a une coopération forte dans la lutte contre le terrorisme entre les États-Unis et la Somalie.
Et que sait-on exactement de ces frappes américaines ? Avez-vous des informations, Manon Lefebvre ?
On sait que... Alors, on n'a pas beaucoup d'informations encore à l'heure actuelle. Mais
c'est bien pour ça que je vous posais la question. Je me dis peut-être que vous en avez.
Non, pas beaucoup plus, si ce n'est que le gouvernement somalien a dit qu'elles avaient permis d'éliminer des chefs stratégiques de l'État islamique en Somalie. Mais on n'a pas encore eu de nom.
Voilà, aucun nom n'a été communiqué. On sait également, si on en croit Donald Trump, que ces frappes ont détruit des grottes dans lesquelles vivaient donc ces responsables du groupe. Visiblement, certains terroristes qui avaient été recrutés par ces mêmes personnes en Somalie. Vous avez une autre question, Pascal?
Oui, la dernière question.
Oui.
Vont-ils poursuivre ces interventions militaires en Somalie,
les Américains? Les Américains. Manon Lefebvre?
Alors ça, c'est difficile à dire parce que les propos de Donald Trump sont tellement contradictoires que faire des prédictions, c'est compliqué. Il faut savoir que pendant son premier mandat, il avait retiré les troupes américaines de Somalie. Il avait montré globalement un désintérêt pour le continent africain avec voilà, plusieurs déclarations qui allaient dans le sens de l'Afrique et les États-Unis n'ont rien à voir ensemble. Et puis là, en revanche, il a déclaré que ces frappes auraient dû être menées plus tôt par Joe Biden, mais que Joe Biden ne s'en étant pas chargé, c'est lui qui avait pris l'initiative.
Et j'imagine que Donald Trump faisait référence en fait à l'attentat qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans il y a tout juste un mois. C'était au début du mois de janvier. Attentat qui, je le rappelle, a tué 14 personnes. Et le suspect avait proclamé dans plusieurs vidéos son soutien à cette organisation terroriste. C'est peut-être pour ça que Trump a dit que Biden aurait dû attaquer plutôt la Somalie. Les djihadistes en Somalie.
Oui, c'est possible, mais si c'est le cas, ça n'est pas justifié, puisqu'en fait, l'auteur de l'attentat à la Nouvelle-Orléans, c'est le principe de l'État islamique, c'est que n'importe qui peut se réclamer du groupe sans en avoir réellement fait partie avant. À partir du moment où la personne va commettre un attentat, l'État islamique va accepter cette revendication en leur nom. Donc je pense pas qu'il y ait de lien spécifique avec la Somalie. En revanche, c'est vrai qu'il y a des groupes terroristes, et plus que l'État islamique, c'est plutôt le groupe Al-Shabaab, qui pose problème en Somalie depuis déjà plusieurs années. Mais en fait, l'accusation de Donald Trump est complètement injustifiée, puisque justement Joe Biden est celui qui a ramené les troupes américaines en Somalie, qui a relancé cette coopération avec le gouvernement somalien que Trump avait interrompu pendant son premier mandat.
Pascal, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, je suis satisfait. Merci beaucoup. Bonne journée.
Et bonne journée à vous. Je salue tous ceux qui nous écoutent à Douala. Merci infiniment, Manon Lefebvre, d'avoir pris quelques instants. Maîtresse de conférence en civilisation des États-Unis à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. D'autres questions pour mieux comprendre l'actualité demain matin, bien évidemment, en direct à 8h10, temps universel. D'ici là, n'hésitez pas, évidemment, à nous contacter 33 9 693 693 70. Vous nous appelez, on notera rapidement votre prénom, numéro de téléphone, et on vous rappelle évidemment dans les minutes qui suivent. Et le standard reste ouvert pour la prochaine demi-heure. Nous allons parler du Tchad et de la transition qui s'est officiellement terminée cette semaine. L'occasion évidemment de dresser tous ensemble un bilan de ces quatre dernières années, les succès, les réussites, les échecs également. Et dites-nous aussi maintenant, quelles sont désormais toutes vos attentes. Reste avec nous.